connaissez-vous le geste? Le geste, ce n'est pas le fait de faire le geste. Il dit que le geste, c'est un groupe d'études et de recherches, genre et société. C'est un groupe qui existe à l'université Gaston-Berger et la coordinatrice, c'est Madame Fatou Diop Sall. C'est un groupe qui travaille sur les femmes, sur la santé des femmes, sur le droit foncier, sur l'accès à la terre des femmes. C'est le geste. La coordinatrice, Madame Fatou Diop Sall, va développer un thème spécialement pour cette journée internationale des femmes, le 8 mars 2011. Elle a choisi de nous parler de la présence des femmes dans la scène publique, la participation des femmes. Nous allons prêter une attention particulière à Madame Fatou Diop Sall.
Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais, à la suite de la présidente de la commission des genres, à la suite du directeur de la BU, à la suite de Madame Bintagé et tous ceux qui ont parlé avant moi, me réjouir aussi de cette célébration parce que c'est un moment important. Célébrer la journée du 8 mars, c'est un événement qui se fait à travers le monde depuis 100 ans. Cette année, nous célébrons les 100 ans de la paix que les femmes partagent avec les hommes qui les soutiennent. Pour plus de 3 000. C'est un événement qui est important parce que c'est ça qui a permis de poser les problèmes que vivent les femmes dans différents domaines. Les problèmes dans le domaine de l'éducation, les problèmes dans le domaine de la santé, les problèmes dans le domaine de la présence dans la sphère politique. Et c'est ça qui leur a permis aujourd'hui qu'on leur reconnaisse plus de droits, qu'on leur reconnaisse le droit de vote et que dans les gouvernements, on mette plus de femmes, qu'à l'Assemblée nationale, on ait plus de présence de femmes. Donc c'est important, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas perdre son temps, c'est poser les problèmes importants pour nos pays dans une perspective de développement. Donc nous faisons quelque chose d'important et je me réjouis de cette célébration. Merci et félicitations à tous ceux qui sont à la base de cette initiative. Donc moi, pour parler comme mes amis d'un thème dans le cadre de cette journée, j'ai choisi, comme l'a dit le modérateur, de parler de la présence des femmes dans la sphère publique en prenant l'exemple de la participation politique. Et je vais dans un premier temps parler de la place des femmes dans les sociétés anciennes pour rappeler les grandes étapes de l'évolution de la condition des femmes. Ensuite, la place des femmes dans les sociétés contemporaines avec bien sûr l'exemple du Sénégal et terminer avec des contraintes et perspectives. Concernant la place des femmes dans la société ancienne, on peut dire que dès la plus ancienne antiquité, la femme est déclarée mineure vis-à-vis de la loi dans les sociétés occidentales. Elles y ont vécu une longue tradition de servitude. Elles étaient considérées comme des mineures et n'ont pu bénéficier de la plénitude de leurs droits politiques que tout récemment. En matière de reconnaissance du droit de vote, par exemple, c'est la Nouvelle-Zélande qui marquera la rupture en accordant en 1893 aux femmes le droit de vote. Et progressivement, cette décision fera tache d'huile dans le monde et pour l'Australie, c'est en 1902 que les femmes vont avoir le droit de vote à travers le Commonwealth Franchise Act, qui accordera aux femmes le droit de voter et d'être éligibles. Aux États-Unis d'Amérique, qui est l'une des plus vieilles démocraties, soi-disant, c'est en 1869 que les femmes de l'État du Wyoming vont avoir le droit de voter, mais les minorités afro-américaines n'obtiendront de droit qu'en 1965 avec le Voting Rights Act. En France, on est surpris d'apprendre que le droit de vote accordé à tous les citoyens français en 1848 ne concernera les femmes qu'avec la constitution de la 4e République, seulement en 1946. En Asie et dans le Moyen-Orient, notons que le Liban et la Syrie serviront de référence aux autres États en accordant ce droit aux femmes en 1953. Les Coétiennes ont obtenu le droit de vote dans le courant de l'année 2005. Et en Arabie Saoudite, aujourd'hui, les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Et il semble qu'avec les différents mouvements que connaissent le Moyen-Orient, le roi Fahd aurait déclaré récemment que les femmes dans ce pays bientôt pourront participer aux élections locales. Par contre, dans l'Égypte antique, bien que les hommes et les femmes aient traditionnellement des prérogatives distinctes, on était loin des pratiques connues dans ce pays-là. La femme était considérée et avait donc un rôle important aussi bien dans la politique, dans l'économie, que dans les divers secteurs de la vie. La femme égyptienne était une mère respectée, dotée d'une grande liberté d'expression. Sa capacité juridique, son étonnante indépendance financière, sa présence et sa personnalité dans la vie familiale et dans la gestion des biens étaient sans égal. D'ailleurs, le culte impressionnant que les Égyptiens vouaient à leur femme se matérialisait à travers la mythologie qui comptait des déesses comme Isis, déesse mère, emblème de la mère idéale, comme Arrakis, qui symbolisait la vie et la fécondité, comme Anak, qui est une déesse guerrière, comme Mahat, qui était le symbole de l'ordre cosmique, de la justice et de la vérité, ou Séchat, qui présidait à l'écriture et à la science, et qui est la figure féminine de Thoth, qui était vénérée comme le dieu de la parole créatrice, de l'écriture et du calcul. Les nombreux travaux réalisés dans ce domaine par Cheikh Anta Diop, par exemple dans Nations Nègres et Culture, soulignent cette place prééminente que la femme occupait dans l'Égypte ancienne. L'historien Salim Kandi, dans son ouvrage « Droit de la femme africaine dire à demain », abonde dans le même sens que Cheikh Anta Diop. Il déclare que l'Égypte est, dans l'Antiquité, le seul pays qui ait vraiment doté la femme d'un statut égal à celui de l'homme. Elle était juridiquement l'égale de l'homme, et il en était de même en ce qui concerne les petits garçons et les petites filles. Donc, les droits accordés aux femmes dans les sociétés africaines traditionnelles étaient nettement plus favorables que ceux assignés aux occidentales et aux femmes arabes de l'époque. Toujours selon Kandi, la femme était l'élément premier de la société négro-africaine, où elle jouissait d'une liberté absolue. L'homme dirigeait par délégation de la femme, et c'est la femme qui, en fait, gérait le pouvoir. Il indique d'ailleurs la succession au trône dans les royaumes précoloniaux au Sénégal se faisait en fonction de la lignée maternelle. Il souligne d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si dans certains noms africains, comme la Diorbo et la Kir, on retrouve le prénom de la mère. Aussi, les exemples que, par exemple, Malamine, directeur de la DU, a donné avec Yassine Boubou, Djembet Mboy, Ndateyala, Alim Tito et Yata, sont à ce propos, je pense, des cas exemplaires. Maintenant, les transformations et bouleversements que l'Afrique a connus plus tard sont liés à des pratiques comme l'esclavage, comme la colonisation, la diffusion, mais surtout l'interprétation des religions. Les colonisateurs vont appliquer aussi l'idéologie de la domesticité qui va servir de justification à l'exclusion des femmes de la scolarisation, leur exclusion de plusieurs domaines de travail salarié et l'occultation du travail non rémunéré des femmes. Et la plupart permis que les femmes qui travaillaient soient aussi sous-rémunérées par rapport aux hommes. Pour des sociologues comme Fatou et de nombreux historiens, c'est parce que les religions chrétiennes aussi et musulmanes ont importé dans leur expansion la culture de leur société d'origine, où la soumission et le contrôle de la femme est de rigueur. Pourtant, selon d'éminents islamologues, nous pouvons donner plusieurs exemples, il y a Tariq Ramdan, il y a Aïcha Iman, il y a Aziz Kébé, on peut citer aussi Oustad Abinsal, qui est une vedette qu'on invite souvent ici pour animer des conférences. L'islam accorde une place de choix aux femmes, aussi bien dans les domaines économiques, politiques, religieux que éducatifs. Le droit à l'héritage accordé aux femmes dès le 7e siècle est une donne importante qui prouve que la femme a le pouvoir de préserver son patrimoine. Aussi, au-delà de l'exemple, il faut voir la liberté de pratiquer des activités économiques par Khadija, qui a été l'employeur du prophète. Aussi, elle aura beaucoup usé de son influence pour protéger son mari. On peut aussi donner l'exemple d'un Mithlamonok qui a été un grand animateur. Je veux nommer le feu Elahi Moussaro, qui en parlant de Khadija disait, comme si c'était aujourd'hui, Soufay Kouran Jete Moufay, Soussan le Khalay Jete Moudekko. Pour dire qu'elle avait de multiples rôles et sans limitation. On peut aussi citer l'exemple d'Aïcha, elle aussi épouse du prophète, qui a joué un rôle majeur dans la diffusion de l'islam par les hadiths qui constituent l'autre source de la religion islamique. Elle a été une éducatrice et a été, durant la vie du prophète, un émissaire des femmes et de leur condition. Sur le plan politique, l'exemple de la reine Bilkis, plus connue sous le nom de reine de Saba, est mentionné dans le Coran, qui la présente en tant que telle, avec toutes les responsabilités que la fonction implique, surat 27, les fourmis, verset 23. C'est dire que la place des femmes dans la religion musulmane est un point fondamental que doivent s'approprier les mouvements de femmes, que doivent s'approprier les associations de femmes. Je pense que nous tous, nous devons nous mettre à étudier le Coran, à étudier l'islam, à savoir par nous-mêmes et non pas par personne interposée, pour savoir exactement qu'est-ce qui nous est demandé dans notre religion, qu'est-ce que notre religion nous recommande et qu'on ne nous raconte pas autant d'histoires comme c'est le cas. Donc, le problème, c'est l'interprétation des religions et tout le processus induit par la colonisation qui a participé à instaurer la domination masculine dans les sociétés africaines qui n'étaient pas patriarcales à l'origine. Le patriarcat n'est pas né en Afrique, n'est pas originaire de l'Afrique, il est originaire du Moyen-Orient et du bassin de la Méditerranée. Donc les bouleversements historiques intervenus dans l'organisation sociale des sociétés africaines va produire une transformation importante et sera à la faveur des hommes. Maintenant, s'agissant des sociétés contemporaines, il a fallu une longue période de conquête pour que les femmes recouvrent l'exercice de leurs droits civiques et politiques. Sur le plan international, des résolutions et conventions ont été adoptées, des conférences et rencontres tenues dans le but de promouvoir les droits des femmes. On peut citer la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. On peut citer la résolution 1325 du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité. Une série de conférences ont aussi été menées sous l'égide des Nations Unies. On peut mentionner la conférence de Mexico de 1975, celle de Copenhague en 1980, celle de Nairobi en 1985, celle de Beijing ou encore le sommet mondial du Caire et la conférence de New York qui a fait ressortir beaucoup de recommandations, notamment les objectifs du millénaire pour le développement avec au moins deux objectifs concernant les femmes et la transformation de leurs conditions de vie dans la société pour atteindre les objectifs de développement. Mais les résultats obtenus au plan mondial sont en deçà des objectifs visés et il reste indéniablement beaucoup à faire